Eh bien voilà, aujourd'hui, nous sommes ensemble dans cette salle de culte. Chacun, chacune, nous avons écouté des enseignements de Jésus. Hommes et femmes, nous avons constaté sa sagesse, sa profondeur, sa pertinence parfaite, sa vérité, son autorité divine. Nous avons vu Jésus vivre. Certains d'entre nous l'ont suivi depuis la Galilée. D'autres l'ont rejoint en Judée. Nous l'avons vu répondre à ceux qui tentaient de le piéger. Nous avons entendu sa voix posée au milieu de la foule. Certains ont aidé Jésus lors de la multiplication des pains, à porter les trop nombreux paniers. D'autres d'entre nous l'ont vu redonner la vue à un aveugle. Certains ont vu la joie de cette famille dont la fille malade venait de décéder, mais que Jésus avait ressuscité. D'autres d'entre nous ont entendu Jésus, devant la foule, parler de l'Esprit divin qu'il allait donner. Certains l'ont entendu dire, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui met sa foi en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Puis, nous avons tous été témoins, atterrés, de l'arrestation de Jésus, de ce procès inique dont il a été victime, de sa condamnation, de sa mise à mort par la crucifixion, de sa mort effective, de sa mise au tombeau. Et aux surprises, nous avons tous été témoins aussi du Maître revenu à la vie. Nous avons retrouvé notre Maître bien vivant. C'était incompréhensible, miraculeux. Signe que Jésus était bien Dieu le Fils, que la mort ne pouvait retenir. Après la fête de la Pâque juive, lors de laquelle nous avons vu notre Maître Jésus mourir et ressusciter, nous voici un peu plus d'un mois, presque deux, après, toujours à Jérusalem. Nous sommes réunis dans cette salle pour la fête de la Pentecôte, qui est une autre fête juive, après la Pâque. Nous sommes environ 120, dans une salle, quelque part dans Jérusalem. Nous venons de remplacer Judas, qui s'était donné la mort, dans l'équipe des 12 apôtres, pour qu'il y en ait de nouveau 12. Nous sommes tous ensemble dans ce même lieu. Voici, chers et sœurs, les circonstances dans lesquelles, grosso modo, en quelques mots bien maladroits, va se passer le récit de la Pentecôte. Aux 11 disciples, Jésus avait dit, puisque Judas n'était plus, Jésus avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem dans l'attente de recevoir un baptême, non pas d'eau comme celui de Jean le Baptiste, mais d'Esprit Saint. Nous avons cela au début du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Et c'est ce qui va se produire. Lisons le chapitre 2 à partir du premier verset. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, et je rappelle que la Pentecôte est avant tout une des grandes fêtes juives pour lesquelles on se rassemble à Jérusalem quand on habite à droite à gauche et même au-delà du pays d'Israël, pardon, je fais une parenthèse un peu longue, mais c'est ce qui va expliquer la suite du récit, quand on est en Égypte, quand on est en Afrique du Nord, quand on est en Grèce, quand on est peut-être même plus loin encore, on vient à Jérusalem quand on est un juif pour célébrer la Pâque, mais aussi la Pentecôte. On ne parle pas forcément hébreu ou araméen, on parle peut-être grec ou arabe, mais on vient à Jérusalem ce jour-là pour célébrer cette fête juive, quand on est un juif de la diaspora, de la dispersion des juifs autour du bassin méditerranéen et plus loin. Je reprends la lecture. Pardon. En fait, je la reprends tout au début. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?» Partes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, Cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant, « Ils sont pleins de vin doux. » Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce récit ? La première, c'est de rendre gloire à Dieu, tout simplement. Rendons hommage au Dieu qui tient ses promesses. Rendons hommage au Dieu qui sait inscrire son action profondément dans nos cœurs, sans nous faire violence pour autant, qui sait l'inscrire dans l'histoire, qui sait prendre sa position de Dieu souverain jusque dans nos cœurs. Rendons gloire à Dieu. Première leçon. Deuxième leçon, j'en ai cinq. Soyons assemblés. Vous avez noté la circonstance dans laquelle la Pentecôte se passe, les disciples, alors c'est peut-être seulement les douze à ce moment-là, mais qui vont très vite être entourés par d'autres, c'est un peu difficile de savoir qui était, ce que veut dire le tous. Il y avait au moins les douze. Les 120, le chiffre que j'ai cité tout à l'heure, c'est dans la partie précédente du récit, on peut supposer qu'il y en avait encore, on ne sait pas trop. Qu'importe. Ils étaient tous assemblés, tous ensemble dans un même lieu. Sans doute le Seigneur aurait-il pu toucher chacun d'eux, Pierre en Galilée, Matthieu en Judée, ou, et, Pierre et Jacques en Samarie, enfin n'importe où. Dieu est assez grand pour les toucher là où ils sont, ces apôtres. Mais quelles circonstances Dieu a-t-il attendu ? Presque 2 mois après la Pâque. Un rassemblement, une circonstance où on peut dire ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Attention à l'individualisme. Nous aussi, suivant l'exemple de ces premiers disciples, sachons nous mettre régulièrement tous ensemble dans un même lieu. Ce récit montre l'importance que Dieu lui-même accorde, attache à nous voir nous tenir ensemble dans un même lieu. C'est ce moment-là qui a été choisi par Dieu pour donner le Saint-Esprit à son Église naissante. Chers frères et sœurs, les rassemblements d'églises en général, de la nôtre en particulier, ont une importance, si j'en crois cette leçon à tirer de ce récit, devant Dieu. Bien sûr, on peut vivre sa foi quand on est seul. Nous autres, dans notre foi, nous attachons beaucoup d'importance à avoir une foi individuelle, personnelle, que nous menons dans la liberté, dans l'autonomie. Mais en même temps, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et c'est là que le Saint-Esprit leur a été donné. Dieu parle particulièrement quand nous sommes ensemble. me semble-t-il. Il ne s'agit pas d'une loi absolue. Grâce à Dieu, il nous parle aussi quand nous sommes seuls au fond des bois. Mais prenons dans nos esprits la mesure de l'importance de venir au culte, de vivre ces temps où nous sommes ensemble. Ne négligeons pas ce temps particulier du rassemblement, où nous sommes ensemble devant Dieu, comme son peuple ou une partie de son peuple. Ne nous laissons pas piéger par cet individualisme dont on parle beaucoup aujourd'hui, chacun sa manière, chacun son chemin. Nous avons aussi une responsabilité de vivre en tant que communauté et de manifester cette vie de communauté par nos réunions, par nos rassemblements, par nos cultes dominicaux, notamment, puisque c'est comme ça que notre Église fonctionne dans notre pays. Je pense pouvoir déduire de ce récit cette deuxième leçon. Importance de nos rassemblements, importance de venir au culte. Plaise à Dieu de nous y parler quand nous sommes réunis. Plaise à Dieu de nous toucher par son esprit quand nous sommes réunis. Troisième leçon. Les apôtres se sont mis à parler des langues étrangères. Et vous avez eu la liste dans la lecture que j'ai faite au verset 8, 9, 10, 11, de tous les gens qui entendaient les apôtres parler dans leur langue. C'est très particulier. Ce qu'il faut retenir, c'est en tout cas que la venue du Saint-Esprit a donné lieu à des capacités nouvelles, à des dons particuliers. Je ne pense pas que Pierre, sur sa barque de la mer de Galilée, ait appris, le crétois ou l'arabe. Et pourtant, il s'est mis à parler une de ces langues. Même si nous ne sommes pas les 12, nous devons savoir que lorsque nous nous réunissons, lorsque nous nous mettons en prière, Dieu peut nous donner ce genre de choses. Parler des langues étrangères, peut-être, ou d'autres choses, les manifestations de Dieu, nous dit la Bible, sont si variées. D'autres récits, d'ailleurs, du livre des Actes montrent d'autres occasions où le Saint-Esprit, au moment de sa venue, a provoqué ces manifestations. Nous savons qu'aujourd'hui, un certain nombre d'églises qui nous ressemblent insistent beaucoup sur ces manifestations du Saint-Esprit. Et peut-être par réaction, nous insistons trop peu. Il faut trouver la juste mesure de ces manifestations, ces dons, ces charismes de l'Esprit de Dieu lorsqu'il survient sur nous. Bien sûr, l'Esprit de Dieu est là. Bien sûr, l'Esprit de Dieu produit son fruit. Bien sûr, l'Esprit de Dieu nous fait dire à Dieu, « Tu es notre Père !» Bien sûr, l'Esprit de Dieu provoque cette paix intérieure dont la source est en haut. Les disciples avaient ces choses. Et lors de la Pentecôte, ils se sont mis à faire quelque chose de tout à fait extraordinaire. Nous avons écouté, comme les disciples, les enseignements de Jésus. Nous avons lu les évangiles et relus. Nous avons reçu son pardon en Jésus-Christ. Nous cherchons à imiter l'exemple de Jésus-Christ de toutes nos forces. Mais notre vie doit avoir cette dimension surnaturelle qui apparaît si fortement dans le récit de la Pentecôte. L'action de l'Esprit dans nos vies fait partie intégrante de notre foi. Cette disponibilité, cette ouverture à l'Esprit de Dieu, cette prière permanente que nous adressons à Dieu qui dit « Seigneur, parle-moi, Seigneur, fais ton œuvre en nous », ouvre la porte à l'action puissante de Dieu dans nos vies. Les disciples ne la réclamaient pas d'ailleurs. Ils n'étaient pas en train de faire des cris pour appeler le Saint-Esprit. Rien n'est dit sur l'attitude des disciples. Ils étaient simplement ensemble dans un même lieu. Alors, c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne ses manifestations. Faisons-lui confiance. mettons-nous disponibles devant lui, tous ensemble dans un même lieu. Quatrième leçon. Si vous me permettez ce vocabulaire quelque peu scolaire, mais bon, je sais qu'il y a des institutrices dans la salle, donc me voilà rassuré. Le but de parler des langues étrangères, quel était-il ? Je l'ai d'ailleurs. Les gens étaient étonnés parce qu'ils entendaient dans leur langue les œuvres grandioses de Dieu. Le but que Pierre va poursuivre après dans son discours, on l'a juste après, le fameux discours de Pierre. Quel était-il ? De parler de l'Évangile, d'expliquer qui était Jésus et ce qui s'était passé. Les manifestations du Saint-Esprit dans notre Église ont aussi ce but, proclamer l'Évangile. Que la grâce de Dieu soit connue par le plus grand nombre de nos contemporains. Et que nos contemporains puissent à leur tour parler des œuvres grandioses de Dieu. Puissent à leur tour comprendre qui est Jésus pour nous et qui il est pour eux. Proclamer l'Évangile, voilà le but de ces manifestations. De se parler en langue étrangère que les disciples ont reçu de Dieu. Ceci dit, il y a eu des réactions variées. Tous les habitants de Jérusalem ne sont pas venus à genoux dans une église. D'ailleurs, il n'y a pas encore d'église. J'avais entendu ma lecture tout à l'heure. Il y en a qui disaient que les apôtres étaient, gays, ivres. Le vocabulaire est très riche dans ce domaine. Donc, plein de vin doux, dit le texte. Pierre va se justifier après, leur dire non, on est le matin, ils ne sont pas ivres. Il a dû préciser. Il y a eu ces réactions. Les apôtres étaient pleins du Saint-Esprit, nous dit le texte. Ils parlaient très clairement, tout le monde comprenait ce qu'ils disaient. Et pourtant, il y a eu des gens qui disaient, ils ont bien coûté trop cela. Donc on peut faire ce qu'on veut, le résultat ne va pas forcer, le résultat n'est pas entre nos mains. Certains étaient stupéfaits, la bouche bée, on les imagine. D'autres perplexes, nous dit le texte. Et puis d'autres moqueurs que je viens de citer. Tout Jérusalem ne s'est pas fait baptiser à la fin de ce récit. Si je vais en effet à la fin du récit, verset 41. Ceux qui accueillirent la parole après le discours de Pierre. Alors après la Pentecôte, donc cette proclamation de l'Évangile dans toutes sortes de langues, puis après Pierre a pris la parole et s'est adressé. Alors en grec, en araméen, le doute subsiste dans mon esprit. À la foule, a fait un discours très puissant, très fort, très très émouvant, et les gens ont réagi et beaucoup se sont donnés à Dieu. Ceux qui accueillirent, verset 41, sa parole, reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Il y avait quand même beaucoup. Alors, oui, je sais, 3000, c'est beaucoup, oui. Mais il y avait plus que 3000 personnes à Jérusalem, non ? Nettement, c'est une très grosse ville. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres ? C'est pour vous dire que c'est toujours comme ça aujourd'hui. Il y aura des gens qui vont se moquer. Il y aura des gens qui vont être stupéfaits. Il y aura des gens qui vont passer outre, sans être ni stupéfaits, ni perplexes, ni moqueurs. Puis il y a des gens qui vont dire, ça c'est vrai, et je me donne à Dieu. Soyons une église où l'Évangile est constamment proclamé. Soyons une église où par l'action de l'Esprit-Saint, les personnes qui croisent notre route entendent l'Évangile, d'une manière ou d'une autre. Vous avez remarqué, je pense, l'image qui est utilisée pour décrire la venue de l'Esprit-Saint. Au début des évangiles, de l'Évangile, on a la venue de l'Esprit-Saint sur Jésus. Et là, l'évangéliste nous dit « comme une colombe ». Et ici, c'est comme des flammes de feu. Ce qui m'intéresse, c'est que dans le récit, cette flamme de feu n'est pas resté au milieu de la pièce comme ça. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu, qui se séparaient les unes des autres. il s'imposa sur chacun d'eux. Chacun d'eux. Quand nous sommes rassemblés, nous sommes aussi chacun des individus, chacune des personnes. Et le Saint-Esprit vient en chacun de nous. Et chacun de nous va avoir sa manière de proclamer l'Évangile, de le vivre, de le porter, de l'incarner, de le manifester en gestes, en attitude, en parole. Et puis, il y a la question des différents langages qui ont été utilisés. Quand je dis que notre Église soit un lieu où, comme à la Pentecôte, on entende ou on proclame l'Évangile, mais c'est un drôle de défi. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler, à titre d'exemple, et c'est les langues qui me font penser à cela, on entend beaucoup parler de l'immigration. Lors des élections présidentielles et probablement lors des prochaines législatives, c'est un des sujets qui nous préoccupe, et à raison d'ailleurs, c'est un sujet compliqué. Mais ici, dans notre texte, nous avons les apôtres qui se sont mis à parler diverses langues. Le défi qui nous est lancé par l'immigration, c'est de parler différents langages pour être compris par les personnes qui viennent. Que notre proclamation de l'Évangile soit audible par des gens qui ne connaissent rien du tout. Que nous sachions dépasser les barrières culturelles avec des personnes dont la culture est très éloignée de la nôtre et qui sont avec nous. Cette question des langages et des cultures est aujourd'hui cruciale. Elle fait débat d'ailleurs jusqu'au dans le domaine politique. Politiquement d'ailleurs, nous pourrions en discuter, mais vous comprendrez que ce n'est pas le lieu pour le faire. Mais en tant que chrétien, cela nous lance un défi. Proclamer l'Évangile de manière à être compris par des gens de différentes cultures. Certaines cultures nous sont aussi éloignées que les Incas, les Mayas ou les Aztèques ou je ne sais quelle autre culture. Et elles sont là, devant nous. Que l'Esprit de Dieu lui-même vienne nous inspirer. Vienne nous donner les mots ou les attitudes, si nous n'avons pas la bonne langue. Vienne nous donner de communiquer cet Évangile qui nous est donné. Certaines cultures représentent des souvenirs lourds à porter. Notre histoire est jalonnée de choses qui sont difficiles. Mais nous, chrétiens, nous devons parler un langage qui est compris. Tout en restant nous-mêmes, dans notre propre culture, prions que l'Esprit de Dieu lui-même vienne nous inspirer et que nous puissions passer les barrières qui nous séparent parfois trop violemment des autres cultures. C'est tout un programme que je vous ai dit là, je ne fais que le toucher du doigt. Cinquième et dernière leçon, j'ai lu d'ailleurs le texte auquel je vais faire référence, le verset 41, je le relis. « Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. » Le baptême. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des gens stupéfaits, il y avait des gens perplexes, il y avait des gens moqueurs, mais il y a aussi des gens touchés qui se sont fait baptiser pour proclamer leur foi personnelle en Jésus-Christ. Ne soyons pas désabusés. Notre société est compliquée, je viens d'en parler un petit peu avec cette mixité que nous vivons, qui peut être très belle aussi. Notre société est compliquée avec le matérialisme, la crise financière, la crise politique. Je ne vais pas faire la liste. Il y aurait de quoi nous dire, bon, c'est foutu, quoi. C'est plus la peine, quoi. Ça y est, le monde est perdu. Les gens n'écoutent plus. Non. Restons des proclamateurs de l'Évangile, coûte que coûte. Parce que autour de nous, il y a des gens qui vont être sensibles, comme dans notre récit, qui vont être sensibles au message de l'Évangile et qui vont en avoir vraiment, en le recevoir avec beaucoup de joie et de reconnaissance, et qui vont cheminer avec Dieu comme nous cheminons avec Dieu. S'il n'y en a qu'une, Ça vaudra la peine que nous, toute notre Église, nous nous mobilisions pour cela. Plaise à Dieu qu'il y en ait beaucoup. Ayant cette ambition de voir des gens accueillir l'Évangile, recevoir la parole, accueillir la parole, comme dit le verset 41, et s'engager par le baptême. Alors je dis ça alors que notre baptistère va être démoli, c'est pas très malin, puisque dans le cadre de nos travaux, nous allons devoir le démolir. Mais on va se débrouiller, s'il y a des baptêmes, on les fera. C'est important que notre Église vive ce souci de voir d'autres la rejoindre, nous rejoindre, de voir des baptêmes. Nous avons besoin de voir ces choses. Nous avons besoin de voir l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Ne nous contentons pas d'exister, d'avoir 160 ans, quel bel âge pour une Église, pour un être humain. Ne nous contentons pas de tourner, de fonctionner, d'être organisé, structuré. Et vous savez, ceux qui me connaissent, que j'aime ça. Je trouve que c'est important. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas la vie, ça. Retrouvons, au contraire, l'émotion de la Pentecôte. Même si c'est un événement unique dans l'histoire que Jésus avait annoncé, il y a là une vibration, une émotion que nous pouvons retrouver. Que chacun d'entre nous peut retrouver. N'oubliez pas ces flammes de feu qui se séparaient, qui allaient sur chacun, chacune des personnes. Ouvrons-nous à l'action puissante de Dieu sur nous. Ravivons cette flamme de vivre et de proclamer, de transmettre l'Évangile que nous avons reçu de Dieu. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te remercions parce que ce récit nous parle aujourd'hui encore. Il nous bouscule dans notre fonctionnement. Seigneur, je te prie, nous te prions que ce récit de la Pentecôte nous parle et ait une résonance dans notre Église. Que nous ayons, nous aussi, ces moments où nous proclamons de toutes nos forces l'Évangile qui nous fait vivre. En utilisant les capacités renouvelées que tu nous donnes par ton esprit. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as déjà faite dans de nombreuses personnes parmi nous. Et Seigneur, nous te prions de continuer. Nous te prions que ton esprit produise son fruit, ses dons, renouvelle nos actions, renouvelle nos personnes. Nous avons besoin, Seigneur, de cette action. Nous avons besoin de voir de nouvelles personnes nous rejoindre. Comme les apôtres ont vu ces milliers de personnes se faire baptiser, nous aussi, Seigneur, nous voulons voir de nouvelles personnes se faire baptiser. Nous te louons, Seigneur, parce que c'est toi le maître. C'est toi la tête du corps. C'est toi qui es Dieu sur ton Église. Amen. Je termine en faisant une petite remarque. Qu'est-ce que je dois dire? C'est un bonus. Le récit de la Pentecôte commence dans une maison. Vous avez remarqué, le vent violent a rempli, verset 2, toute la maison où ils étaient assis. Mais il termine où? J'ai lu plusieurs fois le récit, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que les apôtres sont sortis de la maison? Est-ce que les gens, en entendant les apôtres parler, sont venus dans la maison? Mais enfin, c'était une grande maison. C'est compliqué. En tout cas, ils n'étaient plus enfermés, hein. C'est ça que je veux dire. On sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça termine, ce récit. Si c'était dans la rue, si c'était sur le parvis du temple, si c'était... On ne sait pas où ils ont baptisé toutes ces personnes. Ce que je veux vous dire, c'est que ne restons pas enfermés. Soyons une Église qui s'ouvre, qui sort, qui se fait entendre, pour le bien de tous. Voilà, je voulais ajouter faire ce petit ajout.